Bonjour à tous, question d'actualité format estivale, encore une semaine parce qu'on se retrouve encore la semaine prochaine et ensuite on passe à Le Monde d'aujourd'hui pour moi et pour Jean-Philippe Trottier qui revient à la barre de questions d'actualité normale, questions d'actualité tous les jours du lundi au vendredi et Le Monde d'aujourd'hui à 11h30, de 11h30 à midi les vendredis de chaque semaine. D'ici là, on est encore là pour une semaine. Julien Corona au micro et Daniel Fortin, le barbu, à la réalisation. Aujourd'hui, on reçoit Pierre Binette, l'ancien professeur à la retraite maintenant de l'école de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, pour discuter Ukraine et Gorbatchev. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Donc tu es un habitué de la radio, comme tout le monde, de la station, comme tout le monde le sait. Et avec toi, on va discuter donc de la mort de Gorbatchev, de comment ça s'implique un peu dans la politique russe actuelle, et aussi, on va en soubresaut bien sûr, tout ce qui est lié à la guerre en Ukraine en ce moment et aux difficultés russes et comment tout ça peut jouer. Donc ma première question sur Gorbatchev et sa mort, c'est quel héritage il laisse en Russie?
Écoutez, en Russie, c'est un peu complexe, mais il est certain d'une chose, c'est qu'il a été, il a permis le démantèlement d'un système politique et économique qui était inefficace, était en crise depuis déjà plusieurs années.
Totalement.
Et donc, il a permis que ce système éclate, implose, mais sans violence, qui est extraordinaire.
Surtout sur une question d'un empire qui avait le contrôle de nombreux peuples, asservissait de nombreux peuples. Mais c'est la question, c'est est-ce qu'il l'avait voulu? Parce qu'on peut le dire souvent, on voit le concert de louanges côté occidental, mais côté russe, on a une ambivalence qui est en grande partie nourrie par le Kremlin. Quand on voit Poutine qui reconnaît son importance dans l'avènement de la démocratie, du système moderne en Russie, l'avènement de la démocratie, quand on voit comment la Russie fonctionne, c'est assez drôle d'entendre parler ça de la bouche du porte-parole du Kremlin. Mais de l'autre côté, un Poutine qui certes va payer ses hommages aux dirigeants défunts, mais ne sera pas à ses funérailles. Et de l'autre côté, c'est quand même les dirigeants russes, comment ils sont acceptés, comment ils sont vénérés, c'est s'ils ont du succès, s'ils ont de la réussite. Donc certes, Gorbatchev a pu permettre d'éviter des massacres et d'éviter différentes guerres internes, mais il est à l'origine, sans le vouloir, de l'effondrement de l'URSS et de l'effondrement d'un nouvel empire russe.
Oui, et on peut expliquer assez facilement l'échec de Gorbatchev. En fait, il arrive au pouvoir en 1985. Il veut réformer le régime.
C'est ça.
Bat de l'aile. Cette économie était incapable de passer à un stade plus intensif de production. Et donc, il va lancer des réformes, notamment la perestroïka, qui est la restructuration économique, dans l'objectif notamment
de commencer à rattraper un retard sur l'Occident.
Oui, mais l'objectif d'intégrer, par exemple, l'économie parallèle qui représentait, selon les chiffres, à peu près le quart du PIB de la Russie.
C'est pas tenable. C'était pas des choses qui étaient tenables sur le long terme.
Et pour pouvoir réformer ce régime-là, qui fonctionnait en fait sur la base de l'économie planifiée, une économie planifiée qui fonctionnait très mal, principalement parce que on travaillait avec des données qui étaient fausses. Les entreprises, par exemple, surévaluaient leurs besoins et sous-évaluaient leurs capacités
Totalement.
De production. Parce que, notamment, c'était une économie de pénurie. Donc, ils demandaient plus de matériel que ce qu'ils avaient besoin. Et donc, on travaillait toujours avec des chiffres qui étaient faussés.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'il va lancer la glasnost, qui signifie transparence. Parce qu'on voulait que on puisse critiquer le régime, qu'on puisse donner les vrais chiffres. Mais en ouvrant la critique,
il a perdu le contrôle.
Exactement, parce que à partir du moment où on dit que le parti au pouvoir n'a pas bien servi la population pendant les 50 dernières
on
années,
on réduit sa légitimité.
Et voilà, et on dit que il faudrait qu'il y ait des partis concurrents. Et c'est là qu'il est obligé dans un premier temps de permettre des divisions au sein du Parti communiste. Et par la suite, il va être obligé de reconnaître l'existence du multipartisme.
C'est ça.
Et c'est la fin, donc, du régime
à parti unique.
Littéralement.
Et sur la question aussi de la glasnost, la transparence, c'est la critique du parti va pouvoir aussi être appliquée aux différents états satellites. Et c'est là aussi où il était conscient, où il y a quelque chose d'ambivalent, c'est qu'il était conscient de la volonté d'émancipation des pays satellites, de l'URSS, mais il voulait quand même les garder dans le cadre de blocs intégrés où l'URSS restait fort. Mais néanmoins, ces derniers, cette volonté d'émancipation, au fur et à mesure qu'il va perdre le contrôle à l'interne à l'URSS, cette perte de puissance à l'interne va aussi déborder sur l'extérieur et permettre un peu à l'affirmation et la réaffirmation des tendances nationales à l'extérieur de l'URSS au sein du bloc soviétique. Et est-ce qu'il était conscient de cette émancipation? Est-ce qu'il avait tenté de réduire un peu ou de contrôler cette émancipation relative, ou il s'est vite rendu compte qu'il en perdrait tout et que c'était impossible?
Il y a deux niveaux géographiques. Gorbatchev avait une vision très constructiviste de la réalité internationale, et ce qu'il voulait, ce qu'il a permis, chose que n'avaient pas fait ses prédécesseurs, il a accepté, par exemple, que les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, etc., puissent se débarrasser du système de l'économie planifiée et du système politique de type soviétique, et donc de réintégrer l'Europe. Il a d'ailleurs négocié la réunification de l'Allemagne, à certaines conditions qui n'ont pas été respectées,
totalement.
Mais quand même, il a négocié cette réunification de l'Allemagne. En ce qui concerne les États de l'Union soviétique était composée de 15 républiques fédérées, et chacune de ces républiques fédérées, aujourd'hui, c'est un pays. La Russie étant la république fédérée
c'est
la plus importante, mais le mouvement de sécession commence dans les pays baltes.
Là, il y a eu de la violence.
Voilà, à un certain moment, ce qu'on appelait les Black Berets, les bérets noirs, c'était les troupes d'élite soviétiques, sont allés dans les pays baltes et ont commencé à réprimer les mouvements nationalistes. Et c'est Gorbatchev qui s'est imposé, qui a ordonné que ses troupes reviennent en Russie.
Totalement.
Donc, mais lui, il avait un plan. Il avait un plan de réformer la Fédération de Russie pour en faire une véritable fédération.
C'est ça, une véritable fédération multinationale.
Exactement. Et il a d'ailleurs fait un référendum. Comme vous le savez, la majorité des républiques fédérées n'ont pas participé à ce référendum, ou du moins le taux de participation a été très, très faible, sauf dans les régions qu'on disait autonomes ces républiques fédérées. En d'autres termes, les minorités, par exemple en Géorgie, la minorité abkhaze, ou la minorité ossète, vont être très favorables à la réforme russe.
À la réforme proposée. Et donc ces éléments-là, ces tensions et autres, vont provoquer l'effondrement de l'URSS. Un effondrement de l'URSS qui, pour M. Poutine, est considéré comme le pire événement géopolitique des 30 dernières années. Pire événement géopolitique, on a l'impression que dans ces dernières années, surtout avec la guerre en Ukraine et les différentes ambitions russes, qu'elles soient territoriales ou politiques, il souhaite rattraper. Et donc ça montre aussi une ambivalence, comme on en parlait en introduction, des relations aussi même entre Poutine et Gorbatchev, parfois critiques, parfois pas. Comment on pouvait les considérer?
Mais c'est que Gorbatchev n'est pas responsable de l'effondrement de l'Union soviétique, alors que c'est Boris Yeltsin qui est
totalement
responsable.
On voyait ça, et même les deux, Gorbatchev et Boris Yeltsin, se détestaient aussi. Il y avait une véritable rivalité politique entre le président de la République de Russie, la République soviétique de Russie, qui était Boris Yeltsin à l'époque, et le président de l'URSS, qui était Gorbatchev.
Exactement. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en 91, il va y avoir une tentative de coup d'État pour renverser Gorbatchev, et Gorbatchev va être envoyé en Crimée, d'ailleurs.
Totalement.
C'est Boris Yeltsin qui va s'opposer aux putschistes, qui étaient, on doit l'avouer, je vais utiliser un terme qui n'est pas très poli, mais une bande de Soulons.
C'est ça, une bande de Soulons. Un peu, ce qui est marrant, c'est un Soulon qui s'est opposé à une bande de Soulons pour au niveau, de, au niveau du coup d'État.
Mais donc... Oui, exactement. C'est Ignatieff qui a fait la conférence de presse. Ouais. Il était complètement bourré. et c'est Boris Yeltsin avec son bras droit de l'époque, qui était Khasbulatov, Ruslan Khasbulatov, qui est dans le Tchétchène, et qui va devenir président du Parlement russe, de la Douma russe, et qui va rentrer en conflit avec Boris Yeltsin en 93.
Et donc, au niveau, donc, pour revenir sur Gorbatchev, et aussi, on voyait, tu parlais de la Crimée, ce qui était assez drôle, c'est que Gorbatchev était pour l'annexion de la Crimée faite par Vladimir Poutine en 2014. Gorbatchev cultivait un peu, expliquait que Poutine cultivait un peu une sorte d'admiration, un sorte de respect pour Poutine, de réintroduire un peu du sérieux dans la politique russe lors de sa prise de pouvoir à la suite de Boris Yeltsin. Mais il y a eu une ambivalence dans les relations, comme on en parlait, une ambivalence qui se cultive de plus qu'on voit avec la réaction du porte-parole de la présidence de Russie à la mort de Gorbatchev. Donc comment considérer cette ambivalence et comment considérer un peu comment Poutine inclut le rôle de Gorbatchev dans l'évolution de la Russie actuelle?
Bon, écoutez, comme vous le savez, à la première élection présidentielle russe, Gorbatchev s'est présenté. Il a été battu à plate couture. Il n'a même pas été au deuxième tour. Mais il restait que Gorbatchev n'était pas très apprécié en Russie, alors que Yeltsin l'a été, Poutine l'a été de manière beaucoup plus importante. Ouais. Et donc, c'était un adversaire politique, mais qui progressivement s'est rangé derrière Poutine. Si au départ, il était assez critique, plus ça va aller, plus il va se ranger derrière la politique internationale de Poutine. Vladimir Poutine, qui réaffirmait en fait la puissance de la Russie à l'échelle internationale. Mais en 2014, il était plutôt favorable à l'annexion de la Crimée, exactement. Mais à ma connaissance, il était plutôt défavorable à l'aventure guerrière de Poutine
En Ukraine actuelle. Et même, il expliquait dernièrement aussi qu'à propos de Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, il voyait dans Russie Unie un peu l'incarnation des pires penchants du Parti communiste qu'il a pu connaître à son époque et pendant sa carrière au sein de la nomenclature russe. Donc ça montre, de la nomenclature soviétique plutôt, donc ça montre qu'à quel point il y avait une certaine ambivalence. Et il reconnaissait, Poutine réaffirme le rôle de la Russie sur la scène internationale, la puissance, etc., redonne un peu du bon entrain à l'identité russe, même aussi à l'échelle globale. Mais de l'autre côté, il voit les pires penchants mafieux, pires penchants criminels ou autres un peu schizophrènes que pouvait avoir la nomenclature soviétique. Et donc, ça montre cette ambivalence assez drôle.
Oui, en fait la politique russe aujourd'hui, c'est un régime presque clanique.
Totalement.
Et il était contre... Et effectivement, sous l'Union soviétique, ça a été aussi une question clanique. Oui, voilà. Et Gorbatchev s'y est opposé à ce clanisme. Et donc, il est normal qu'il n'approuvait pas ce qu'il voyait comme développement d'un gouvernement plutôt autoritaire et qui bafoue les droits des citoyens. Très critique à ce niveau.
Pour nos auditeurs, si vous voulez rire à propos de à quoi peut ressembler une politique clanique en Russie et en Union soviétique, je vous conseille de voir le film La mort de Staline, qui est une excellente comédie.
Oui.
très drôle comédie. Mais ce qui permet un peu d'inclure, étant donné que la mort de Gorbatchev a lieu pendant la guerre en Ukraine, pendant ce qui se passe en ce moment avec la préparation d'une contre-offensive ukrainienne qui risque d'être assez importante à suivre quand on voit l'amélioration des conditions d'armement de l'Ukraine dans les dernières semaines, la difficulté pour le recrutement et le remplacement des troupes de la part de la Russie, la difficulté aussi pour l'entretien des différentes lignes de défense russes, quand on voit tout ce qui se passe en ce moment et comment la politique russe a de plus en plus de mal à tenir le discours « c'est une opération spéciale, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de mobilisation générale ». En plus, il y a une semaine, on a eu un décret qui augmentait la taille de l'armée russe de 150 000 soldats. Et de l'autre côté, la Crimée de plus en plus attaquée par des roquettes, les lignes comme celle à Belgorod côté russe de plus en plus attaquées par des drones et des roquettes. Comment tu considères que la politique russe peut tenir son discours actuel face à sa population alors que l'inflation augmente, alors qu'il y a des difficultés de plus en plus grandes au pays? Et est-ce que tu vois une possibilité que ce discours puisse tenir encore?
Écoutez, premièrement, en ce qui concerne l'offensive ukrainienne, je pense que cette offensive est très coûteuse en termes de vie humaine, que ses chances de succès sont relativement faibles. Ils vont harceler, bien entendu, les troupes russes, particulièrement à Kherson. Kherson, c'est la première ville qui a tombé et qui a été occupée par la Russie. Et les Ukrainiens, actuellement, essaient de reprendre cette ville.
Parce que la prise de Kherson, c'est très important pour les lignes de ravitaillement et surtout pour la possibilité de pouvoir bombarder en permanence la Crimée.
Oui, voilà. Et il faut bien le dire, l'hiver s'en vient et l'hiver va être, selon moi, à l'avantage de la Russie. D'abord parce que les plaines ukrainiennes, lorsqu'elles sont gelées, c'est facile de s'y déplacer.
Totalement.
Contrairement au printemps, quand ils ont attaqué. Ensuite de ça, ils risquent d'avoir un contrôle important sur les sources énergétiques en Ukraine, notamment l'électricité.
Avec la centrale de Zaporizhzhia.
Exactement.
La centrale nucléaire.
Exactement. Donc, je pense que l'hiver va, pour pas faire un mauvais jeu de mots, geler le conflit. c'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai.
Oui.
Je pense que les partis vont occuper leur position, vont renforcer leur position, et peut-être que là, à ce moment-là, on pourra voir certaines négociations entre la Russie et l'Ukraine.
Et les négociations, on a le G20 de Bali qui va être là à ce moment-là, au mois de novembre, et le G20 de Bali, où le président ukrainien Poutine sera là, Biden sera là, toutes les grandes puissances seront là, et une grande partie du discours du G20 va être sur des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
Oui, et je pense que le scénario plausible, mais pas certain, mais plausible, c'est ce que Zelensky a proposé au début de la guerre, à savoir qu'on pourrait, ne pas statuer sur le statut des républiques de Luhansk et de Donetsk pendant une période de 15 ans. Et donc, 15 ans où on va négocier de pacifier les choses, on va rétablir les communications, etc. On peut négocier sur le retrait de certaines troupes, on va donner des pouvoirs spéciaux à Luhansk et à Donetsk, mais on ne statuera pas. On va attendre, en fait, la disparition de Poutine.
Vu son état de santé présumé et autre chose, 15 ans à la part, avec son âge et autre chose, on va juste se donner le laps de temps pour permettre d'attendre qu'il meure.
Exactement. Je pense que la paix va être très difficile
tant
que Poutine va être au pouvoir.
Tant que Poutine est vivant, et Poutine vivant, c'est Poutine au pouvoir quand on voit son contrôle et la réforme de la Constitution qu'il a pu faire qui lui permet de rester au pouvoir jusqu'encore plus de 2036, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Oui, donc c'est quand même assez long. Bah, merci Pierre d'avoir répondu à toutes ces questions pour nous éclairer sur la situation, que ce soit la mort de Gorbatchev et aussi la situation actuelle par rapport à la guerre en Ukraine. C'est toujours très intéressant de t'écouter au micro de Radio VM, que ce soit le matin avec Michel Gaillou et aussi sur nos autres émissions. Merci Pierre. Et encore une fois, comme tu as été un de mes anciens professeurs, une très belle retraite.
Merci beaucoup.
Merci à toi Pierre.
Au revoir.
Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité, format estival, Julien Corona micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros.